France Culture. h 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
La femme est morte, mais le rock est vivant. À l'occasion de la sortie de son premier album solo, Marlon Magnier sera mon invité à partir de 13h. Et tout de suite, on critique aujourd'hui au menu de la musique avec deux albums qui nous emmènent aux États-Unis. Nothing's About to Happen to Me de Mitski et My Days of 58 de Bill Callahan. Vous écoutez les midis de culture, allons voir ce que la vie nous réserve. Et pour discuter aujourd'hui autour de la table, Joseph Gosse, le directeur adjoint de la rédaction de Madame Figaro, bonjour.
Bonjour Marie.
Zoé Sfès, productrice de la série musicale, le samedi de 17h à 18h sur France Culture.
Bonjour Marie.
Bonjour. Et Carole Boinet, directrice de la rédaction de notre partenaire, Les Inrecuptibles. Vous nous donnerez votre coup de cœur émergent tout à l'heure. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les trois.
I'd never live in a small. Gotta write your book early, or it gets written up in your place.
On commence avec le 8e album de Mitski. 15 ans après ses débuts autoproduits, l'autrice, compositrice, interprète américaine trace sa route, lentement mais très sûrement, au point d'être considérée aujourd'hui comme une des voix majeures du rock indépendant aux États-Unis. Nothing's About to Happen to Me, c'est le titre de cet album. En gros, il ne va rien m'arriver. L'artiste le décrit ainsi. Un récit riche dont le personnage principal est une femme recluse dans une maison négligée. À l'extérieur de son foyer, elle est perçue comme une déviante. À l'intérieur, elle est libre. Quelques mots d'abord, Joseph Gosse.
Je crois que c'est un disque qui s'écoute comme on lirait un roman. C'est-à-dire, il y a une vraie narration, il y a une histoire, il y a une séquence. Et c'est une séquence qui conduit, en résumé, en très bref, de l'amour à la construction de sa propre solitude. Et des chats.
Et les chats.
Et les chats.
Zoé Sfès.
Moi, je dois dire que je pensais que j'avais compris ce que c'était que Mitski et que je l'avais grandement sous-estimé. Voilà, il faut faire des mea culpa. C'est vraiment hyper intéressant cet album parce que moi, je connaissais ce son. C'est un son qui est sorti dans les années 2010, en fait, quand elle a émergé, Mitski. Et c'est un son qui a déjà une époque, en réalité, qui fait déjà son d'époque. Je découvre qu'elle avait 35 ans, donc elle est plus jeune que moi. Mais pourtant, elle est associée à quelque chose qui est un son de ma prime jeunesse. Et c'est intéressant parce que j'ai découvert toutes les influences. C'est tout ce qu'elle en dit après avoir écouté l'album. Pour moi, c'est aussi un album de milieu de vie, et de milieu de vie d'une femme. Et donc, j'entends des choses extrêmement pertinentes, et ça me touche énormément, je dois dire.
On va continuer cette discussion qui s'annonce passionnante avec d'abord un morceau que vous avez choisi, Joseph, sur cet album, If I Live. If I Live, morceau sur le nouvel album de Mitski. Joseph Gosse, nous vous parliez d'un roman musical. Qu'est-ce qu'elle nous raconte ?
Ben, elle raconte la fin d'un amour. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. On l'entend là dans ce morceau. Il y a quelque chose un peu qui pivote un peu. C'est-à-dire, elle dit si tu me quittes, tu trouveras quelqu'un d'autre, mais moi, je ne trouverai personne qui me pardonnera autant que tu m'as pardonné. Donc tout est là-dedans dans cette tension, cette dissociation entre toi tu trouveras quelqu'un et moi je vais rester seul parce que moi je ne trouverai plus personne. Et tout l'album est construit sur cette idée qu'elle construit sa propre solitude. Vous l'avez dit tout à l'heure, elle est dans une maison et la maison fait vraiment partie de l'album. C'est le décor, elle en parle, ça résonne. On a même l'impression que le disque est enregistré dans cette maison. Il y a un côté effectivement qu'elle a voulu, qui est assez un côté assez rock, assez live en quelque sorte. Et il y a aussi cette histoire de chat, parce qu'il y a des chats qui traversent le disque, et le chat est aussi l'emblème que l'on voit sur la couverture.
Le chat blanc
aux yeux de David Bowie.
Oui.
Donc un chat aussi qui annonce une sorte de métamorphose, et c'est la première fois, je crois, que sur une de ses pochettes, on ne la voit pas elle, et on voit quelque chose d'autre, qui est un chat dessiné. Donc on est vraiment dans cette idée de la mue, de quelque chose qui est en train de se modifier, et le disque raconte ça, et il le raconte aussi d'une façon assez surprenante, enfin en tout cas que je trouve très contemporaine aussi, c'est-à-dire de vraiment de tracer une histoire, d'avoir une écriture, de ne pas simplement se contenter des chansons, parce qu'on aurait pu se contenter de morceaux. C'est une star sur TikTok, hein, des morceaux qui ont vraiment cartonné. Mais il y a vraiment cette idée d'une narration, de comment on raconte, comment on fait un récit. Et c'est marrant parce qu'en l'écoutant, je me dis, tiens, quelqu'un qui serait en train d'écrire un roman pourrait écrire en écoutant cet album, parce qu'il y a comme ça des moments où les choses reprennent, des choses s'arrêtent, c'est plus lent, et puis tout d'un coup ça reprend. Il y a une vraie dynamique. Et moi j'étais assez surpris, j'étais pas forcément très client de ce qu'elle a fait auparavant. Pour moi, elle a un côté un peu Lana Del Rey, mais moins connue,
Exactement. Moins
rock, etc. Oui. Même dans les interventions de voix, etc. Il y a beaucoup de choses qui me rappellent Lana Del Rey, en moins mystérieuse sans doute, mais enfin il y a quelque chose comme ça. Et là d'un coup je découvre quelqu'un qui est vraiment dans une forme de maturité. Et juste pour rebondir sur ce que disait Zoé tout à l'heure, moi aussi ça m'évoque des choses de ma jeunesse, qui n'est pas la même, mais ça m'évoque beaucoup de choses. Et en fait, en y réfléchissant, je me dis que dans son art, dans sa façon de composer, dans ses mélodies, dans sa voix, ça peut renvoyer à beaucoup de choses qui nous ont construites.
Il y a quelque chose d'un classique déjà quand on entend le morceau qu'on a entendu.
Complètement. Mais en fait, je pense qu'on va parler de deux albums qui, tous les deux, sont des albums de mi-temps de quelque chose, c'est-à-dire des albums de temporalité. Et c'est aussi des albums qui interrogent sur ce que le rock indie, qui en fait est un genre qui n'est plus prédominant aujourd'hui, a encore à dire. Donc c'est en ça qu'il y a quelque chose de. C'est un son très millénial, en fait, pour moi, donc qui est vraiment ma génération. Je trouve ça hyper intéressant. Donc on est deux, en réalité, à être sans doute un peu passé à côté de cette fille avant. Alors on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles ça a eu lieu. Il y a probablement le fait qu'elle a quelques morceaux célébrissimes qu'on a entendus absolument partout et qui sont devenus des trends TikTok. Il y a quelque chose sur la beauté de sa voix et la beauté des arrangements qui, en fait, a souvent, je pense, dans mon cas, et même à la première écoute, fait écran à ce qu'elle dit et à ce qui se passe dans cette musique, parce que j'avais la sensation que c'était effectivement mis du Lana Del Rey, mis du rock indie passé au fil de Norah Jones, un peu, vous voyez, ce genre d'ambiance. Et en réalité, il y a quelque chose d'apparemment confortable qui finit toujours par être un peu disrupté au sein de la chanson. Et ça, c'est très, par exemple, I'll Change For You, c'est une chanson qui commence vraiment comme ça, elle est toute, si on n'écoute même pas les paroles, mais je veux dire, extrêmement clean, et elle se déclinise au milieu de la chanson. Ce qui est très intéressant, je crois, dans cet album, c'est qu'il est effectivement, c'est un roman, mais c'est vraiment des films. Moi, il y a vraiment eu des moments où il y a une chanson qui s'appelle Dead Woman, où elle lui dit « Tu m'aimerais mieux, ce serait plus facile si j'étais morte, parce que tu pourrais dire des choses merveilleuses de moi, et pourtant je vais vivre. » Et ça, c'est, je pense, des pensées qu'on a tous, plus ou moins. On est dans le vide de se dire que ce serait plus facile si on partait maintenant. Il y a une sublime chanson qui, je pense, est la plus belle, In the Lake, qui est aussi ce désir de partir en réalité. Ça, elle commence en disant je peux pas vivre dans une petite ville, j'ai fait trop d'erreurs. Ça, c'est une phrase géniale. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on est censé, mais que moi j'ai pensé plein de fois. D'ailleurs, je ne vis pas dans une petite ville. J'ai fait trop d'erreurs pour vivre dans une petite ville. Et si je partais dans le lac, tout serait possible. Et ce lac, et moi j'ai eu des visions de Nuit du chasseur, le film de Charlton avec une femme enfermée dans la voiture. Et j'ai découvert qu'elle revendique l'influence d'une autrice américaine qui s'appelle Shirley Jackson, de ce roman. Dans cette écriture de ce disque qui est un peu un roman. Et en réalité, c'est hyper intéressant parce qu'il y a du coup toutes ces images et tous ces endroits d'où j'écoute ce disque qui se superposent à la fois. Ce son, qui est un son, oui, voilà, c'est vraiment, je pense que dans la beauté de sa voix, de ses arrangements, il y a quelque chose qui est un peu, ce son des années 2012-2015, quand elle a émergé, qui était un autre temps. En réalité, moi, je réalise que je suis d'un autre temps, un temps qui était plutôt optimiste, où on avait beaucoup plus de temps pour écouter la musique, où effectivement, il y avait moins de volonté de démonstration, où effectivement, le rock indie était un peu encore un des genres dominants. C'est plus le cas. Donc, il y a un peu, ne serait-ce que par la nature de la musique, quelque chose qui se passe quand on l'écoute, et en même temps qui est toujours hyper séduisant. Et puis il y a ces espèces de sous-couches, et cette femme est une maîtresse dans l'équilibre dans l'équilibre de la beauté et de la capacité à produire de l'image, des images complètement fascinantes dans ses chansons, et des images qui à la fois donc peuvent se lire et se lisent comme un roman, mais chaque chanson, vous pouvez vraiment, c'est aussi la beauté de cet album et des albums réussis quand ils ont une ambition à la fois comme ça globale et que chaque chanson peut vraiment évoquer quelque chose. Alors, il y a une chanson qui s'appelle « Where is my phone ?», on va y revenir, qui est aussi un petit chef-d'œuvre de cet album. C'est la panique de « Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone ?», qui, en fait, quand on s'inscrit dans l'album plus large, dit autre chose, parce que c'est la vulnérabilité, mais qui, moi, qui perds souvent mon portable, est aussi une chanson qui fait écho à des pertes d'identité, comme ça, des nudités, qui sont, et dont je ne sais pas si je connais des chanteuses ou des autrices, compositrices de 35 ans, qui ont décrit des espèces de sensations comme ça, de vide, d'angoisse, de solitude, mais aussi de solitude parce qu'on est un peu vieux, comme disait Joseph dans cette chanson, qu'on commence à être vieille, qu'on est cette génération de femmes qui commence à être vieille. Un truc quand même assez abyssal, je dois dire, qui s'est joué à l'écoute de cet album.
Joseph Gosselin.
Il y a plusieurs choses. Moi, j'ai aussi entendu le disque d'une femme qui a subi de la violence et qui ne veut plus la subir. Effectivement, qui raconte aussi, comment dire, ce côté très désemparé, ce côté totalement asservi aussi à ça, à l'autre, à l'amour, à l'autre et à ce qu'elle a subi. Et quand elle dit « tu vas m'aimer encore », on est vraiment pris dans un tourbillon, c'est-à-dire qu'est-elle prête à faire pour retrouver cet amour. Et y a une vraie violence sous-jacente, qu'on entend dès le début, effectivement, avec ce côté small town, qui est un des grands thèmes du rock américain, c'est-à-dire, est-ce qu'on reste dans la petite ville à subir ce qui s'y passe, ou alors est-ce qu'on va se libérer ailleurs. Là, tout le disque est vraiment sur ce retour sur soi, qui va même au-delà de ce côté petite ville, small town, et on a l'impression que son comment dire, elle ne peut réchapper à ça, à cette violence, en tout cas, à ce qu'elle a subi, qu'en faisant passer l'amour pour une personne dans l'amour pour une maison. Et toutes les paroles, elles convergent vers ça. Au début du disque, elle parle vraiment à quelqu'un, en lui disant « tu vas revenir, tu vas m'aimer à nouveau, comment faire ?» Elle dit même à un moment « je vais m'habiller comme ta meilleure idée ».
Ouais.
C'est fou. Je vais m'habiller comme ta meilleure idée. C'est à tel point elle veut disparaître. Et en fait, cette disparition, petit à petit, elle la reconstruit en s'identifiant à une maison. Et donc, c'est la maison, donc finalement un objet qui ne vous parle pas, mais dont vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, qui devient l'objet de l'amour.
Vous avez fait un dernier mot.
Bah oui, mais c'est tout à fait contemporain. En fait, toute cette histoire de la petite ville qui est présente dans l'autre album et qui est aussi un motif récurrent de Bill Callahan qu'on va écouter tout à l'heure, c'est quand même aussi ces choses-là. C'est on a subi de la violence, mais c'est surtout aussi on a fait des choix de vie et il est trop tard pour en changer. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les désirs de Rockindy de la jeunesse où je vais quitter cette petite ville, je vais partir, j'ai des rêves d'ailleurs. C'est-à-dire que là, c'est trop tard. C'est déjà fini. On est déjà dans la petite ville. On est déjà resté 10 ans avec quelqu'un qui nous a pas fait du bien. Mais il y a des choses qui sont possibles, et notamment la chose la plus évidente, mais la plus bête, c'est de faire de la beauté avec. Et moi, en fait, ça me va. C'est très consolant, en réalité.
Nothing's About to Happen to Me de Mitski. Mitski qui sera en concert à Paris ou au Zénith d'ailleurs, le 5 mai et le 9 mai à Bruxelles. Et c'est l'heure du coup de cœur de Carole Bonnet, directrice de notre partenaire, directrice de la rédaction de notre partenaire Les Inrecuptibles. Votre coup de cœur, qui est-ce ?
J'ai très envie aujourd'hui de vous parler d'Elias Ronenfeld, qui viendra jouer aux Inrock Festival au 104 à Paris mardi 10 mars. Elias Ronenfeld est un musicien danois. C'est dans son appartement de Copenhague, transformé en studio, qu'il a conçu et enregistré son dernier album solo, Speak Daggers. Je dis solo, car Elias Ronenfeld a eu une autre vie. En 2009, à l'âge de 17 ans, il devient le leader d'un groupe de post-punk abrasif que, chers auditeurs, vous connaissez peut-être, Ice Age. Au fil des ans, Ice Age s'efface et Elias Ronenfeld s'aventure ailleurs. Il sort un premier album solo, Heavy Glory, en 2024. S'il ne me laisse pas un souvenir très marquant, son deuxième, Speak Daggers, lui, oui. Le titre vient de Hamlet, qui explique dans un monologue qu'il utilisera des mots comme des poignards à l'encontre de sa mère. Voici donc comment Elias Ronenfeld envisage musique et texte comme des daggers, des poignards, capables de trancher l'oreille des auditeurs et leurs imaginaires. Johnny felt seen, Johnny got hooked, fixed on her observer with a deadening look. Johnny get high, Johnny cut loose, Johnny took a step and struck his neck through the Ce morceau, Mona Lisa, le plus réussi de l'album à mes yeux, entrelace la vision de l'œuvre à l'histoire d'un certain Johnny, accro à la drogue, qui passe sa tête dans un nœud coulant. C'est un poème moderne. Elias Ronenfeld compte le désespoir de la condition humaine d'une voix douloureuse d'écorché vif. L'autre grande force de son album vient de sa musique de collage. Du post-punk, du trip-hop, du dub, les légendes du reggae The Congos, un sample du musicien turc Orhan Gencebey ou un featuring avec Erika de Casier. Et rien de brouillon là-dedans, puisqu'Elias Ronenfeld est un artiste virtuose.
Et d'où lui vient ce goût-là du collage ?
Eh bien de Gorillaz, figurez-vous. Ado, il écoutait beaucoup de rap, puis découvre le grand mélange des genres avec la bande de Damon Albarn. Ce qui va l'aider à produire son son à lui très particulier, que l'on pourrait baptiser Cloud Punk. Une musique très frontale et à la fois vaporeuse, qui lui vient aussi de sa proximité avec le producteur britannique Dean Blunt. Tous deux ont sorti en 2025 ce qui reste à ce jour, à mes yeux, le meilleur album d'Elias Ronenfeld, Lucre, en compagnie d'un autre producteur émérite, Vegin, une collection de ballades à la guitare, tordue par une forme de lofi digitalisée. Bref, j'ai envie de dire, la force brute d'Elias Ronenfeld vaut tous les poignards du monde.
Et Elias Ronenfeld sera donc au Zarok Festival.
Oui, il jouera mardi 10 mars au Zarok Festival qui auront lieu les 10, 11 et 12 mars au 104 à Paris et aussi le dimanche 15 mars à la Bourse de Commerce Collection Pinault.
C'est bien noté, merci beaucoup Carole.
I saw that demon inside me trying to claim my body as its own.
Et maintenant, on se pose et on écoute la voix de Bill Callahan avec l'impression de renouer avec un classique qui nous accompagne depuis des décennies. En soi, c'est vrai, puisque le musicien américain a enregistré ses premières chansons en 88, mais cet album n'est que son huitième. Dans My Days of 58, il poursuit son exploration douce et minutieuse de la folk et il se pose beaucoup de questions sur la mort, sur ce qu'il restera de lui pour ses enfants, sur son mode de communication. C'est donc une sorte d'autoportrait. On commence avec quelques mots aux fesses.
My Days of 58. Ben voilà, lui, alors pour le coup, il pose la question de la temporalité, on va dire, de manière assez frontale, avec une pochette qui est magnifique. Et ben, Bill Callahan, alors c'est son 8e album, mais ça n'est pas son 8e album, parce qu'en fait, il a été smug pendant des années. Donc en réalité, c'est vraiment un des types les plus prolifiques de l'histoire. Moi, je l'ai beaucoup aimé à l'époque de Smug. Je l'ai un peu perdu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi un garçon qu'on retrouve comme ça. Il y a des albums qui nous touchent ou pas. Moi, le dernier qui m'avait vraiment intéressé, il datait plutôt des années 2010. Là encore, on revient sur ça. Et aujourd'hui, là, je vraiment avec cet album, quel amour, le type il est dans la même veine que des Nick Cave ou que des Leonard Cohen, il est arrivé à ça, mais il a quelque chose de très brassensien je trouve dans la capacité à garder son langage et son économie. C'est très étrange parce qu'à la fois c'est vraiment très américain comme son, on peut pas faire plus américain, et en même temps c'est totalement lui et c'est hors de l'espace duquel il émerge. Et je pense que moi qui ai quand même un peu du mal avec la folk quand elle est très américaine, vraiment je suis assez bouleversée par cet album et par ce type qui a arrivé aussi à une maîtrise de ce que c'est que l'objet chanson qui est folle, quoi.
Joseph Gost.
Moi, j'ai une tendresse folle pour Bill Callahan, qui me rappelle évidemment ma tendre enfance. Je l'ai interviewé quand j'étais jeune étudiant dans les années 90 pour un des albums de Smog. Et donc, j'ai toujours beaucoup de tendresse, même si je l'ai sans doute pas mal négligé ces dernières années. Ouais. C'est-à-dire qu'à force de... Voilà, bon, il y a un disque qui sort, un nouveau disque, un autre disque, etc. Et puis on l'écoute et puis on passe à côté, etc. C'est à peu près normal, mais en même temps, il y a quelque chose d'assez fort dans cette idée que on est capable de construire une carrière comme celle-là et de rester fidèle à ce qu'on a été, tout en changeant. Quand on réécoute les premiers Smog, on est beaucoup dans une construction paupériste, avec peu de choses, une construction de studio de maison. Et là, et petit à petit, il est passé à autre chose. Il est passé à quelque chose d'un peu plus rock, entre guillemets, en tout cas, à une idée de groupe. Et ce disque-là, il raconte ça. Il raconte un groupe qui est dans un salon. C'était un peu son idée. C'est un disque de salon, c'est-à-dire c'est le groupe qui enregistre. Et vous êtes assis sur le canapé et vous les écoutez en train d'enregistrer. Et moi, de ce point de vue-là, j'étais vraiment touché et je suis vraiment très très touché par ce qu'il raconte dans ce disque-là. C'est-à-dire effectivement, c'est un portrait en plusieurs vignettes, mais c'est un portrait aussi où il va très très loin. Il va chercher des choses très intimes.
On écoute un autre extrait que vous avez choisi, Zoé, c'est Computer.
Mmh. my computer to pass the time. Search for whatever crosses my mind. It really brings out the worst in me. I read things I shouldn't read. I've seen things no man should ever see.
Un étrange blues, Zosfez.
C'est un chef-d'œuvre, cette chanson. Je voulais qu'on l'entende parce que, à la fois, le côté très chambre, on sent qu'ils sont vraiment dans un espace tout petit, mais il y a toutes les couleurs. Alors là, c'est en train de monter, mais il y a des bois, il y a des vents un peu, il y a tous ces sons presque un peu analogiques, et il y a cette guitare qui est capable de se comporter de plein de façons, mais qui là presque a un côté bruitage. Mm-hmm. Et c'est surtout cette chanson incroyable. Le soir, je me mets à mon ordinateur. Et je regarde des choses et ça fait sortir le pire de moi. Je vois des choses que je devrais pas voir. C'est à la fois extrêmement simple. On aurait pu ouvrir, mais on l'a pas fait parce que sur cette première chanson inaugurale de cet album, qui est un petit chef-d'œuvre de 6 minutes, qui s'appelle Why Do Men Sing? Pourquoi est-ce que les hommes chantent? Qui est mise en place comme une question, mais qui ne l'est pas vraiment. C'est quand même assez fascinant. Joseph me disait qu'il a bientôt 60 ans. Et c'est.
Pas moi, lui.
Non, pas lui, mais mon Dieu, Bill. Parce que du coup, Bill, il a enregistré ça il y a 2 ans. Là, on entend plein de choses. C'est-à-dire que musicalement, c'est pas révolutionnaire ce qu'il fait. Et en même temps, c'est d'une immense intelligence. C'est-à-dire que c'est à la fois plus rond que certains des albums qu'on a aimés de lui, puisqu'il a fait des albums beaucoup plus expérimentaux, un peu plus. Et moi, je pense qu'en fait, je l'ai un peu. On a tous le même phénomène, en fait, avec des gens comme ça qui restent pérennes, qui, on va dire, persistent dans un effort. Il y a des albums, on ne sait pas pourquoi, on les accroche, on les entend, ils restent, et puis d'autres, pas trop. Moi, je sais que j'avais écouté son dernier qui s'appelle Reality, qui était. C'est un homme aussi qui a fait Smog, qui ensuite a déménagé, a quitté Chicago. Il y a des gens qui ne sont toujours pas remis du fait qu'il soit plus Smog et qu'il ait changé de son. Mais je pense que c'est aussi des gens qui ne se sont pas remis de cette projet un peu de jeunesse. Ensuite, il a bougé, et ensuite, il a eu des enfants un peu tard, à 45 ans. Et donc, il a fait un peu des disques du bonheur qui, moi, me. Bon, voilà, mais c'est horrible parce que. Et en même temps, c'est un type qui a été très célèbre pour ses chansons tristes. Et là, il demandait, il avait le droit, en fait, de faire des chansons pas tristes, évidemment. Et là, on est à un autre endroit. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas une question ni de tristesse, pas de tristesse, c'est qu'il va vraiment aller chercher. Et alors, avec une économie, c'est ça qui est fou, c'est pour ça que je disais que c'est Brassensien, une économie du langage. C'est-à-dire que le langage est profondément simple, c'est un matériau, c'est de l'intimité, quoi. Il nous parle en frère, et en même temps, ce qu'il arrive à, et ça c'est vrai de tout temps, ce qu'il arrive à tracer est d'une telle puissance et d'une telle précision dans ce qu'il arrive à dire de ce que c'est que d'être un homme de 58 ans. Pourquoi est-ce qu'on chante? Alors c'est vraiment, je vais sur mon canapé, j'ai des potes qui arrivent, pourquoi les hommes chantent? Alors c'est vraiment aussi, et lui il a toujours été intéressant, c'est aussi une génération, je pense, qui a beaucoup interrogé, sans jamais le faire frontalement, une certaine idée de la masculinité. Mais à l'époque où c'était pas très forcément chouette de le dire, et que c'était même pas une pensée consciente. Et je trouve que ça continue à 58 ans. C'est très touchant, en réalité.
Joseph Gost.
Oui, je suis assez d'accord. C'est une génération qui a beaucoup interrogé son rapport à l'amour, à la sexualité, son rapport aux autres. Et en fait, quand on regarde toute la carrière de Bill Callahan, que ce soit Smog ou sous son nom, en fait, il y a un vrai parcours de vie. Et chaque disque semble raconter une nouvelle étape. Moi, je me souviens des premiers disques où il racontait des histoires d'amour à trois, des choses qui vous arrivent quand vous avez 20 ans. Et là, aujourd'hui, il raconte évidemment ce qui lui arrive à 58 ans. Il y a un morceau qui s'appelle Empathy, que je trouve absolument incroyable, puisqu'il commence par parler de son père. Il s'adresse à son père en lui disant « Regarde ce que je suis, regarde ce que tu m'as fait, souviens-toi de ceci, de cela. » Et au fait, j'ai 2 enfants. Mmh. Et sa façon de passer de son père à ses enfants, sa façon de le dire, de le narrer ça et d'arriver à ses enfants, elle est juste d'une précision et d'une perfection assez redoutable, qui m'a rappelé quelqu'un qui est sans doute un de ses modèles, c'est-à-dire Lou Reed, à la fois par le phrasé, mais aussi par la façon d'écrire, qui n'est pas une façon classique, mais qui est effectivement une façon très assez linéaire, comme un poème, mais vraiment comme de la prose, et aussi par un peu ce qu'on a entendu, c'est-à-dire ses arrangements que Lou Reed a pas mal pu faire, c'est-à-dire des recherches dans les sons de guitare, dans certaines textures, etc., tout en conservant un cadre assez rock. Et de ce point de vue-là, là, je trouve qu'il est arrivé à un niveau où il excelle vraiment. On le voit, c'est-à-dire que tout le tracé de l'album est d'une rigueur et d'une force incroyable. Le début est plutôt assez rock. Il y a un long passage où les morceaux sont plus calmes, plus introspectifs. Et il reprend à la fin avec un morceau qui est très très beau.
The World is Still,
c'est le dernier. Et l'avant-dernier qui est très rock, très assez comme ça, assez massif. Et il termine avec The World is Still, qui est une sorte de comptine où il n'y a pas grand-chose, il y a juste de l'écho, une petite des cuivres, je crois. Ouais. Je crois, enfin vraiment quelque chose. Et d'un coup, sa voix est enveloppée dans la réverbération, et vous savez que c'est la fin, quoi. Et c'est incroyable. Il regarde la nature et vous sentez la nature qu'il regarde.
Bill Callahan, my days of 58, je vais y arriver, qui sera en concert d'ailleurs le 8 octobre à Paris au Trianon. Voilà, c'est la fin de cette émission. Zoé Sfès, Joseph Gost, Carole Boinet, merci beaucoup.
Merci
d'être venu dans les Midis de Culture. Vous qui nous écoutez, restez avec nous pour la suite de cette émission.